Ce matin, je vais tester pour voir si vous connaissez un peu vos classiques de littérature. On n'ira pas dans la grande littérature. En fait, peut-être que vous avez compté ça à vos enfants. Connaissez-vous vos fables de La Fontaine? J'espère que vous connaissez vos fables de La Fontaine. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille qui voulait se faire plus grande que le bœuf? Connaissez l'histoire? C'est l'histoire, vite, vite, comme ça, d'une grenouille qui s'en allait, titrin va loin, en sautillant, grenouillant, puis elle croise un bœuf qui est absolument énorme et gigantesque, merveilleux. Et le voyant, elle se dit, « Oh, si j'étais grosse comme un bœuf, est-ce que ça serait pas extraordinaire? » Et donc, remplie d'orgueil, d'ambition, de désir, elle commence à retenir son air et à se gonfler, comme vous avez déjà vu, des grenouilles qui se gonflent un peu. Elle se gonfle tant et si bien, tant et tant qu'à la fin, elle explosa. C'est l'histoire de la grenouille qui voulait être aussi grande qu'un bœuf. Ce matin, dans notre récit de Daniel, on arrive à un moment dans l'histoire où on a trois protagonistes qui vont être présents. On a un type qui rêve au fond de lui-même de devenir Dieu. Vous aurez peut-être identifié la grenouille ici. Deuxièmement, on a trois amigos qui, avec beaucoup de simplicité, vivent leur foi. Et puis, on a un troisième protagoniste qui est Dieu. Dieu qui dépose un regard sur ce type assez orgueilleux, un regard de compassion, un regard d'ironie et un Dieu aussi qui veille sur ces trois hommes qui, avec beaucoup de simplicité, cherchent simplement à rendre gloire à Dieu. Et donc, je vais vous demander d'être attentif dans la lecture du texte. Jérémie va nous faire la lecture et il y a des passages dedans qui peuvent sembler un peu lourds, un peu redondants, un peu lents. Voyez-y de l'ironie. D'accord? Si vous êtes bien attentif à la lecture, vous allez pouvoir dénoter un peu d'ironie de la part du narrateur qui veut souligner l'ambition énorme de ce type qui voulait devenir Dieu. Et puis, si vous êtes encore un peu plus attentif, c'est possible que vous puissiez observer vers la fin du texte que ce Dieu-là qui dépose un regard plein d'ironie sur ce petit être-là qui voudrait être Dieu en fin de compte, dépose aussi un regard de compassion sur lui. Et c'est vraiment intéressant de l'observer dans le texte. Alors, je vous invite à écouter attentivement la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Daniel, au chapitre 3, à l'édition Louis II. Daniel, au chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa devant la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement! Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons pour nous délivrer, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole, il dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi! » Il reprit, dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Merci, Jérémie. Super belle lecture. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu prend soin des siens, de ceux qui marchent simplement, humblement, dans la foi tous les jours et qui saisissent les opportunités pour afficher leur foi. Dieu prend soin. Non seulement cela, mais Dieu se révèle même aux plus orgueilleux. Même aux plus orgueilleux, même à Babylone, même dans la situation la moins probable, Dieu se révèle. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, on est assemblés aujourd'hui pour fêter la fête des mères. Être une maman, c'est servir avec simplicité à tous les jours, recommencer des soins, recommencer à être là pour la famille, recommencer à faire toutes sortes de petites choses, Seigneur, qui, prises toutes ensemble, ont vraiment, vraiment, Seigneur, une portée extraordinaire. Ce matin, Père, je te prie à travers cette fidélité de Shadrach, Meshach et Abednego, la simplicité de leur foi, viens nous enseigner, Seigneur. Viens nous enseigner simplement à poursuivre cette intégrité, à marcher avec toi. Viens nous donner aussi de l'espoir, Seigneur, de ce que tu te révèles, tu te fais connaître, même dans les situations les moins probables, à ceux qui vraiment ne sont pas intéressés à toi, Seigneur. Viens nous parler ce matin, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Le type qui voulait être Dieu. On est dans un livre de l'Ancien Testament, on est dans le livre de Daniel. Si vous n'êtes pas familier, vous n'étiez pas là avec nous la semaine dernière, allez écouter le premier exposé biblique pour vous placer en contexte un peu. Le peuple d'Israël est en exil, ils ont été déportés. Je ne reviens pas sur toute l'introduction de la semaine dernière, mais c'est le contexte actuel et donc ils se retrouvent à Babylone. Dans le passage de la semaine dernière, dans les chapitres 1 et 2, Daniel, on a rencontré ce roi-là qui, pour l'époque, est le roi le plus puissant, qui domine les nations environnantes. Et ce roi-là avait fait un songe. Je ne sais pas si vous vous rappelez du songe de ce roi, duquel lui-même ne se souvenait pas. Il a fallu que Dieu, d'une manière surnaturelle, comme Dieu intervient parfois dans l'histoire des hommes de manière surnaturelle, vienne révéler à Daniel le songe que Nébuchadnezzar avait fait. Et donc, dans ce songe, Nébuchadnezzar avait rêvé d'une grande statue qui était faite premièrement avec une tête en or, ensuite de ça avec un torse en airain, ensuite de ça de l'argent, du fer mêlé à l'argile, tout ça. Et Daniel avait donné l'explication du songe, puisque l'explication lui avait été donnée lui-même dans un songe. Daniel avait expliqué à Nébuchadnezzar que cette statue représentait en fait différents royaumes. Le premier, la tête faite d'or, étant son propre royaume. Et des royaumes subséquents allaient venir à travers les âges, tout ça. C'est vraiment ironique de voir que ce Nébuchadnezzar qui termine le chapitre 2 en adorant dans une certaine mesure, je ne dis pas que c'était une adoration qui venait du cœur, mais il s'élance vraiment, il se prosterne premièrement devant Daniel, des louanges sortent de sa bouche pour dire « Wow, ton Dieu est le Dieu qui révèle les secrets, c'est le Dieu par-dessus tous les dieux pour révéler les secrets, c'est absolument extraordinaire. » Et dans la suite du récit, ce roi-là qui est très puissant, qui a reçu une révélation à travers la bouche de Daniel, du Dieu qui est le vrai Dieu en réalité, tire pour toute leçon que s'il avait une statue à construire, elle n'aurait pas simplement la tête en or, mais elle serait toute faite d'or, représentant vraiment son royaume. Après moi, il n'y aura personne. Et on voit à travers le fil de l'histoire qu'il y avait probablement cette idée-là qui était présente parce que Nébuchadnezzar ne fait pas simplement construire une statue extraordinaire. Elle était extraordinaire, d'accord? La statue, là, pour traduire ça dans des dimensions pour les vieux de mon âge, on va mettre ça en pied aujourd'hui, ça va. On parle d'un diamètre à la base d'environ 9 pieds et puis 90 pieds de hauteur. D'accord? Déjà là, c'est assez impressionnant de voir ça qui tient là. Et puis cette statue, soit était entièrement faite d'or, soit était recouverte d'or. On peut pas le déterminer avec le passage, tout ça. Et placée dans une vallée loin de tout rocher qui pourrait la fracasser. Et placée dans une vallée, cette immense statue magnifique, extraordinaire. Et c'est clair dans le récit que le roi, c'est pas dit que la statue est faite à son effigie, d'accord? À sa ressemblance. Mais ce roi-là s'identifie avec sa statue. Il va demander, avec cette statue qu'il a faite construire, il va exiger, il va ordonner qu'on lui voue un culte, qu'on l'adore. Est-ce que vraiment Nébuchadnezzar avait fait la rencontre d'un Dieu à qui il voulait rendre tous les hommages? C'est pas ça qui sort dans le texte, d'accord? C'est plutôt sa réalisation, ce que lui a produit, cette statue entièrement faite d'or. Et j'aurais beaucoup de difficultés à pas voir dans le fait qu'elle est entièrement en or, un orgueil de la part de Nébuchadnezzar qui dit « Wow, j'ai eu un beau songe, mais non, non, après moi, il n'y aurait pas de royaume. » De par sa réaction, puis vous avez peut-être remarqué l'espèce de monotonie. Jérémie a fait une super belle lecture, fait que ça cassait bien la monotonie. C'est ça qu'on lui avait demandé, parce qu'il y avait une ironie. Quand tu lis tout seul chez toi le matin avec les deux yeux dans la graisse de bine, puis tu es en train d'essayer de te réveiller avec ton petit café, puis là, il commence à faire des répétitions. Il commence à te donner d'abord toute la liste du gratin de Babylone qui va être présent lors de la dédicace de la statue. Puis après ça, il commence à te dire toute l'orchestre symphonique qui a été rassemblé. Puis il recommence encore un petit peu plus loin à le faire. Même quand c'est Nebuchadnezzar qui en parle, quand c'est même pas son héros qui est en train de le proclamer. « Oh, peuple et nation! » Non, c'est lui qui s'adresse juste aux trois gars. Il recommence à faire toute la liste encore. Parce que c'est quelque chose. Vous comprenez? C'est quelque chose. Et si vous ne l'adorez pas, ça se peut que ça vienne me chercher. Il y a de l'ironie dans le texte. Je comprends que c'est pas comme nous autres, on l'écrit aujourd'hui dans un langage très, très contemporain. Mais il y a de l'ironie dans ce passage-là parce que Dieu est en train d'exposer souvent ce que nous faisons à travers nos propres réalisations. Et ce roi-là voulait avoir quelque chose qui allait durer dans le temps. Cette statue-là devait durer au moins des millénaires après sa mort. Rappeler si d'autres royaumes devaient venir, au moins son royaume à lui, la grandeur de feu Nebuchadnezzar. Bon, il arrive ce qui doit arriver dans un royaume où, à un certain moment donné, il y a des gens qui ont des privilèges, hein, à la fin du récit. Si vous vous rappelez, à la fin du récit la semaine dernière, on a vu ensemble que Daniel avait été élevé en honneur, puis Daniel avait profité de ce privilège-là pour dire « Ouais, mais j'ai trois buddies, tu les connais pas encore, ce sont d'illustres inconnus pour toi. » C'est pour ça que je les appelle les trois amigos, d'accord? Parce qu'il y a une question que tu te poses quand tu arrives là, tu te dis « Comment est-ce que ça se fait que les Chaldéens, finalement, c'était l'ensemble de la classe politique qui n'était pas tellement contente que là, des Juifs avaient été mis un petit peu à l'honneur, puis qui font des jeux politiques parce qu'ils se disent « Aïe, aïe! » On joue le jeu du roi, on va aller se prosterner, mais on connaît son langage d'amour maintenant à ce roi-là. On connaît des gens qui n'ont pas donné tout cet amour-là. Fait que on est capable de faire une petite game politique puis d'aller faire, hein, se débarrasser de ces gens-là. Puis là, la question que tu peux te poser, c'est mais comment ça se fait que Daniel n'est pas là? Mais à la fin du récit, Daniel est à la cour du roi. Daniel n'est pas un illustre nobody. S'attaquer à Daniel, c'est peut-être plus compliqué que de s'adresser aux trois amigos que le roi ne connaît pas vraiment encore, qui font probablement partie d'une centaine ou de plusieurs centaines de conseillers, de gestionnaires, de fonctionnaires qui gèrent l'État pour le roi Nebuchadnezzar. Et possiblement, c'est mon impression, c'est pour ça que Daniel n'est pas emporté dans ce complot-là. Et donc, ces politiciens-là qui sont avides de pouvoir, qui ont soif de pouvoir, vont simplement aller chercher ce roi-là. On va l'appeler Nébu, OK? Alors, aller chercher Nébu par les sentiments. Et ces sentiments-là, c'était un égo qui vaut son pesant d'or, d'accord? Un égo énorme. Et donc, ils lui disent, il y a des gens dans ton royaume qui n'adorent pas ta statue. Et c'est dans sa fureur, dans cette espèce de grosse colère-là, je vais appeler ça une grosse colère parce que je vois vraiment de l'ironie dans le texte, ce roi-là va péter une grosse colère. Vous savez, lorsqu'il avait préparé l'adoration de la statue, la fournaise était déjà en train de chauffer. C'est pas comme si tu avais beaucoup, beaucoup le choix. Tu te prosternes ou tu as une autre option. Et donc, lorsqu'il va apprendre qu'il y a trois illustres inconnus, trois amigos qui lui tiennent tête, il va péter une royale colère, ce monsieur-là. Il les fait venir devant lui. Et écoutez bien la déclaration qu'il fait. Je vais juste aller chercher le verset. C'est vraiment important de le remarquer. Lorsque les trois amigos se retrouvent devant lui, voici ce qu'il va leur dire. On est au chapitre 4. Excusez-moi, au chapitre 3. Verset 15. Alors, il fait encore toute son énumération. La trompette, le chalumeau, l'orchestre symphonique va jouer juste pour vous, les amis. En fait, pour moi. Et puis, à la fin, il dit, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » C'est quand même fort. Si cet homme-là ne veut pas être Dieu, en d'autres mots, il est en train de dire, « Y a-t-il un Dieu dans l'univers qui puisse m'empêcher de faire ce que je veux? » Ce type-là estimait être plus fort que tous les dieux qu'il pouvait imaginer. Vous devez savoir que pour certains personnages, historique dans l'Ancien Testament, on n'a pas beaucoup d'informations. Des fois, on a des rois qui passent, puis il n'y a pas resté de traces à travers l'archéologie, tout ça, puis c'est difficile de démontrer avec l'archéologie leur existence, des choses comme ça. Dans le cas de Nebuchadnezzar, on a des traces très claires dans les musées. On a la première prière qu'il a faite sa dédicace à lui comme roi. C'était un roi extrêmement religieux. Et en fait, c'est un peu troublant quand tu lis sa première prière. Tu changerais quelques éléments, puis tu dirais qu'il est en train d'adorer le Dieu de l'univers, tant ce Dieu-là est élevé et tant il lui reconnaît vraiment qu'il lui est soumis. Donc, ce Dieu-là était très religieux, avec ses religions, avec ses multiples divinités, tout ça. Mais il est établi dans sa royauté. Et lorsqu'il est challengé, lorsqu'on refuse d'adorer cette statue qu'il a construite, peut-être pas clairement à son effigie, mais pour sa gloire, c'est évident dans le texte, il s'exclame et dit, « Y a-t-il un Dieu et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Un des thèmes principaux du livre de Daniel, c'est qu'il y a en définitive un seul Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Ça va devenir encore plus clair la semaine prochaine. J'espère que vous allez être avec nous dimanche prochain. Cette idée qu'une manière de réfléchir à la question, à savoir si je veux être chrétien, si je veux honorer Dieu ou non, une manière de l'aborder, c'est sous l'image de la royauté. Je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Parce qu'un des thèmes principaux du livre de Daniel, c'est que ce Dieu-là est au-dessus de tous les rois, de tous les gouvernements de la terre. Et il revient à chacun d'entre nous, à un certain moment donné dans notre vie, à prendre une décision si nous allons prétendre être le roi, la reine, le Dieu de notre univers personnel et de notre vie, ou si à un certain moment donné, nous allons décider de déposer notre couronne au pied du Dieu qui réellement nous a créés. Il y a un certain moment donné dans mon cheminement, dans ma quête de Dieu, si je veux connaître le Dieu qui a créé les cieux et la terre, si je veux connaître le Dieu qui s'est fait connaître à travers les saintes Écritures, il y a un certain moment donné où je vais admettre que l'univers ne gravite pas autour de ma personne, mais que l'univers existant gravite autour de la personne de Dieu. Nebuchadnezzar n'est pas là. Son univers à lui gravitait autour de sa personne. Et en fin de compte, cette statue-là qu'il a élevée, c'était une manière de s'assurer qu'on le révérait lui-même à travers ses réalisations. C'est facile pour un chrétien de lire un passage comme celui-là, lire Daniel, puis dire, OK, là, dans le fond, je sais avec qui je dois m'identifier. Il y a les bons gars, puis il y a le méchant roi, puis moi, je suis plus comme les amis de Daniel, puis comme Daniel, parce que moi, je crois en Dieu. Puis Nébu, ben lui, c'est le méchant avec qui on ne peut pas s'identifier. C'est vraiment mal connaître la Bible. C'est vraiment mal connaître les Écritures. C'est mal connaître aussi particulièrement le Nouveau Testament. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, toute cette notion-là d'idolâtrie, de vouloir adorer des dieux, tout ça. Clairement, dans le Nouveau Testament, on apprend que, en fait, chaque fois qu'on a des réalisations, qu'on se réalise, qu'on crée des choses extraordinaires par nos propres mains, que ce soit ma carrière, que ce soit ma belle maison, que ce soit mes compétences physiques, mes réalisations, que ce soit n'importe quoi, chaque fois que ces choses-là deviennent tellement importantes dans ma vie, qu'à partir du moment où quelqu'un vient me voir puis commence à critiquer ça, il y a une espèce de petit Nébu qui est en train de se réveiller en nous parce qu'il est là, il sommeille en nous. Et dès qu'on vient critiquer, cette semaine, j'ai quelqu'un, jase avec, la personne critique mon travail, questionne la qualité de mon œuvre. Je savais pas, mais j'avais un Nébu qui dormait en moi. Et j'ai senti qu'il s'éveillait en moi, que je voulais prendre la défense de mes réalisations. Je n'étais pas capable de prendre la distance à ce moment-là puis de dire, Seigneur, faut que j'écoute. J'écoute qu'est-ce que tu es en train de me dire. Tout d'un coup, cette semaine, en quelques minutes, il y a un petit Nébu qui s'est réveillé en moi. Et il y en a un qui sommeille en chacun de vous. Dans les Écritures, quand tu lis la Bible, tu dois apprendre à être capable de t'identifier avec chacun des protagonistes. C'est une des choses qui est belle dans le livre de Daniel, c'est que cet homme-là, qui est, je veux dire, c'est un espèce de monstre d'égoïsme, mais à plusieurs reprises, tu es obligé de le prendre un peu en sympathie dans le récit. On vient de le voir la semaine dernière au moment où il va se mettre à louer Dieu. Vous savez, c'est comme lorsque tu écoutes une télésérie, un film, puis à un moment donné, il y a un vilain qui est là, qui est vraiment totalement corrompu, mais le réalisateur va t'exposer juste un aspect un peu humain de lui pour que tu puisses t'identifier avec lui. Finalement, tu dis, bon, je ne sais pas à quoi ça sent nécessairement pour le réalisateur de le faire. Je sais à quoi ça sent dans la Bible. Le réalisateur de la série Daniel veut nous montrer qu'on n'est pas toujours aussi pur que les trois amis de Daniel. Et donc, je dois être capable d'examiner comment est-ce que je réagis lorsque les gens viennent questionner, remettre en question, critiquer mes réalisations personnelles. C'est possible qu'elles soient toutes autant de statues en or que j'ai élevées dans le jardin de ma vie, pour dire combien je suis grand, beau et merveilleux. Mais allons voir maintenant nos trois amigos. Ce qui frappe dans le passage, lorsqu'on rencontre ces trois personnages-là, c'est la simplicité de leur foi. Moi, c'est ça qui m'a frappé vraiment. Je lisais, puis la situation est désespérée et la situation est extraordinaire. D'accord? D'une part, la situation est désespérée, puis la solution qui va venir, c'est un de ces rares moments dans l'histoire biblique où Dieu va intervenir de manière surnaturelle. C'est très rare, hein? On a l'impression, ce livre-là est rempli de miracles, tout ça. Non, non, comptez le nombre d'années qui passent, comptez le nombre de gens où on a des récits. Les chrétiens, on croit définitivement en Dieu, donc j'ai pas de problème avec les miracles. Ça peut être farfelu pour vous, mais c'est juste que croire en Dieu, pas croire dans les miracles, c'est une aberration en soi. Tu y crois ou tu crois pas, tu crois que l'univers est un miracle en lui-même, que ce hasard-là, si bien monté, est conduit à l'existence aussi peu probable de l'humanité dans un univers semblable. Tu crois que ça vient de quelqu'un ou tu y crois pas. Après ça, il intervient quand il veut. La réalité, c'est qu'il n'intervient pas tous les jours dans aucune de nos vies de manière aussi surnaturelle, aussi merveilleuse. La majorité des chrétiens vont assister à quelques interventions où tu dis « Aïe, c'est incroyable ». Généralement, Dieu travaille à travers les petites choses de la vie. Mais là, on a cette situation-là où tu as ces trois amigos-là qui sont dans une situation totalement désespérée, impossible de s'en sortir. Et Dieu va intervenir d'une manière extraordinaire, mais jamais, jamais dans le récit, j'ai la possibilité de dire, « Hey, ces gars-là, là, ils n'étaient pas faits de la même chair que nous autres. » Au contraire, ce qui frappe, c'est leur simplicité. Ils sont traînés devant le roi les menace, et la réponse qui sort de leur bouche, en tout cas, si j'avais été Nébu, là, je sors un épée, puis je les zigouille. Les gars sont là, la fournaise est en train de chauffer, puis les gars disent, on n'a même pas besoin de te répondre au roi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? C'est ça leur réponse. Ce qui m'a frappé, c'est que ces hommes-là ont vécu à ce moment-là dans une situation extraordinaire. Okay, dans notre vie, là, dans notre vie chrétienne, il y a des moments qui sont extraordinaires, puis il y a des moments qui sont hyper ordinaires. Quand on parlait des mamans, la majorité des choses que les mamans font sont très ordinaires. C'est de la quotidienneté. Hein? On change les couches comme les papas, on se met les mains là-dedans, on essaie de faire de quoi avec ça, puis on continue jusqu'à temps qu'ils partent de la maison, puis après, on change encore leurs couches d'une autre manière. Ça a l'air que ça continue jusqu'à temps qu'on les enterre ou ils nous enterrent. Tu sais? Mais c'est très ordinaire. La majorité des mamans sont très ordinaires. Et ce que je réalisais en rencontrant ces trois gars-là, c'est que ces gars-là avaient exercé, c'est évident, leur foi au quotidien. Ils arrivent dans une situation extraordinaire, ils sont simplement eux-mêmes. C'est ça qui se passe là. Tout va très vite et ces gars-là ne sont qu'eux-mêmes. Si la ville de Longueuil Si la ville de Longueuil doit en venir à connaître le Dieu que nous servons, c'est que les chrétiens vont vivre au quotidien, de manière très simple et ordinaire, leur foi. Devant 1 million de circonstances, ces 3 amigos-là, avant, avaient pu exercer leur foi. Lorsque le matin, se levant, ils décidaient s'ils remettaient la journée à Dieu ou non. Puis ils exerçaient leur foi en disant, « Cette journée-là est à toi, Dieu, c'est toi qui me l'as donnée. » Et donc, ils commençaient la journée en le remettant à Dieu. Puis, ils se préparaient à manger. Puis encore une fois, ils exerçaient leur foi en disant, « Cette nourriture-là, c'est toi qui me la donnes. Peut-être que c'est la santé qui me l'a procurée. Alors, la santé, c'est toi qui me la donnes. Je reconnais que tu es souverain. » Puis, il arrivait une petite situation au travail où on leur demandait de mentir pour faire les choses plus vite. Puis, ces gars-là, simplement, on peut pas les imaginer autrement. Dans le moment le plus critique de leur vie, ils disent, « Regarde, on n'a même pas besoin de te répondre là-dessus. » Bon, ben, comment est-ce que vous pensez qu'ils se comportaient lorsque quelqu'un arrivait et leur disait, regarde, juste à la maison un petit peu plus, tout va être correct. Ah, oui, c'est vrai, j'oserais pas m'affirmer. Comprenez? Ces gens-là exerçaient leur foi tous les jours. Et lorsqu'ils arrivent devant une situation extraordinaire, ils sont très ordinaires. Ils demeurent eux-mêmes. Ils ne sont pas présentés comme des gens qui sont faits d'une autre chair. C'est juste des croyants qui marchent à tous les jours et à exercer leur foi. Et c'est ça qui va se passer à travers le récit de Daniel. Oui, il y a des situations extraordinaires, j'en conviens, mais avec chaque situation extraordinaire qui survient, où la foi, le test de la foi passe à un autre niveau, Daniel et ses amis vont simplement passer un autre test, puis le résultat dans ce cas-là, c'est qu'ils vont être élevés encore plus en honneur, puis un autre test, puis ils vont être élevés encore plus en honneur, puis un autre test. Et donc, une des leçons qui est là à travers tout le livre de Daniel, c'est que chacun des tests de ma foi au quotidien servent à me préparer au prochain. Et donc, la vie chrétienne a quelque chose de très ordinaire. Je me prépare à avoir une réponse comme « Wow, génial !» où j'annonce l'Évangile dans une circonstance. Simplement, lorsque quelqu'un est discourtois puis il me coupe sur le chemin en priant pour mes ennemis, au lieu de m'irriter comme le reste des gens qui en ont rien à cirer, puis c'est juste eux qui ont été froissés. C'est lorsqu'on me demande à la maison d'en faire un petit peu plus en décidant de donner puis d'être généreux. C'est lorsque je vois quelqu'un qui est dans le besoin, spontanément, je vis ce que Jésus m'a dit de faire. J'en ai plus, je partage, Dieu pourvoira pour demain. Et donc, je m'en vais vers tout ce que Jésus nous dit de faire, tout ce que de manière pratique, je vois l'éthique d'un chrétien dans l'Ancien Testament, même j'ai plein d'instructions. Je vais simplement le vivre, l'appliquer, tout simplement sans me questionner, et je suis en train de me préparer pour ces situations-là extraordinaires. Évidemment, une leçon super importante avec nos 3 amigos, c'est que leur foi n'est pas placée dans la délivrance. Ça, c'est super important. Ces 3 gars-là ne croient pas dans la délivrance, ils croient en Dieu. C'est vraiment super important. Et c'est là que je vois leur maturité. Au verset 17, voici. Ben, commençons à la fin du verset 16. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus au roi Nebuchadnezzar. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, au roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ce n'est pas vraiment important pour eux de savoir si Dieu allait faire une intervention miraculeuse ou non. C'est un non négociable. Ils continuent à vivre leur foi avec simplicité. Et donc, leur foi est en Dieu. Paul, plus tard, va dire dans le Nouveau Testament, « Je vous reverrai bientôt alors qu'il est prisonnier, puis il écrit à une église. » Puis il lui dit, « Mais quand même, que je meure ou que je vive, Christ sera glorifié de toute manière. » Parce que vivre, c'est bon pour servir Christ, mourir m'est un gain, je vais aller auprès de Christ. Et c'est exactement ce genre de foi-là qu'on a ici. Comme chrétien, on tombe parfois dans le panneau de vouloir se servir de Dieu et on va croire dans la délivrance. Maintenant, je veux dire, c'est pas que ces gars-là n'avaient pas la foi, vous comprenez? Il peut le faire, il va le faire, puis s'il ne le fait pas, ça ne va rien changer dans notre attitude. C'est exactement ça qu'ils disent. Et le panneau dans lequel on peut tomber, nous, c'est que si notre cœur n'est pas entièrement dédié, si notre cœur n'est pas exercé simplement à servir Dieu, on entre dans une espèce de bargainage avec Dieu où « Dieu, je veux croire dans ta puissance et dans ta capacité et dans ta bonté de me délivrer. Je crois dans la délivrance. » Ce n'était pas le cas avec les trois amigos de Daniel. Ils croyaient en Dieu simplement. Et la situation est désespérée. Alors j'ai ce roi qui voulait être Dieu. Puis j'ai ces trois personnages-là qui vivent leur foi avec une grande simplicité, avec une grande quotidienneté. Et Dieu intervient et il agit comme il lui semble bon. Une des petites bulles qui a popé dans ma tête cette semaine pendant que j'étais en train d'étudier, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu voulais te faire connaître à Nebuchadnezzar. Donc, la meilleure chose, c'était que tu sortes du feu. Ça aurait été correct si tu ne voulais pas te faire connaître à Nebuchadnezzar davantage qui grille dans le feu. Je pense qu'ils ont été sauvés pour la gloire de Dieu. Pour que Nebuchadnezzar ait des louanges sur ses lèvres. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton utilité pour la gloire de Dieu? Que Dieu fasse de ma vie comme bon lui semble. Si tu es plus glorifié en me sauvant de cette situation-là, c'est bon. Si tu veux que je sois un martyr à travers cette situation-là puis que je subisse l'injustice ou n'importe quoi, c'est bon aussi. N'importe quoi pour ta gloire. Il y a une idée qui est constamment présente à travers toute la Bible dans le rapport, la relation que Dieu entretient avec ceux qui placent leur foi en lui. C'est cette idée que Dieu est toujours avec nous. On l'entend à plusieurs reprises. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par exemple, dans Ésaïe 43, 1 à 3, « Ainsi parle l'Éternel, un prophète de l'Ancien Testament. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches, dans ce cas-là assez littéralement, dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Permettez-moi de vous dire que la majorité des chrétiens qui ont été jetés dans le feu, qui ont été jetés au lion dans les arènes sous l'Empire romain, la majorité d'entre eux n'ont pas été sauvés physiquement. La majorité d'entre eux sont morts glorieusement comme des martyrs. Il y a à une certaine époque, il y a eu tellement de sang de chrétiens versés que Tertullien a écrit à l'empereur, Tertullien, c'est pas de sa faute, ça s'appelait comme ça, un chrétien a écrit à l'empereur puis il a dit ceci, « Chaque fois que vous nous mettez à mort, le sang qui est versé est une semence de chrétiens. » Et donc, ce n'était pas par les interventions surnaturelles de Dieu qui les sauvait des flammes ou les sauvait des lions. C'était par la simple déclaration de foi des chrétiens qui allaient au bûcher, qui allaient au lion, qui allaient se faire zigouiller et qui, à la fin, étaient encore en train de dire, « Il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur, placez votre foi en lui si vous voulez être sauvés. Par ma mort, par ma vie, il sera glorifié. » Mais une certitude est présente, et ça ressort à travers l'histoire de l'Église, dans le témoignage des chrétiens qui meurent martyrs, comme dans cette intervention surnaturelle de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Et ici, Dieu a décidé d'intervenir d'une manière surnaturelle. Vous connaissez la rencontre du troisième type, ces gars-là ont fait la rencontre du quatrième type. Ok, je suis vraiment vieux. Vous ne connaissez pas la rencontre du troisième type. Il faut que j'ajuste mes référents culturels. Oui, merci. Je chercherai ça sur YouTube. Là, les théologiens ont fait couler beaucoup d'encre. Hein? c'est qui le quatrième individu qui est avec les trois amigos dans les flammes? Est-ce que c'est une théophanie qu'on appelle en théologie, c'est-à-dire une apparition physique de Dieu? Est-ce qu'on aurait une incarnation du Fils de Dieu, Christ, qui serait présent? Il y a des passages dans l'Ancien Testament, par exemple, à un moment où des anges vont venir à la rencontre d'Abraham. J'ai vraiment l'impression qu'on a une théophanie qui est là. On a Christ qui est là, qui est incarné. C'est pas clair dans ce cas-ci. Pour Nebuchadnezzar, qui, on s'entend, n'était pas un grand théologien, il va plutôt penser que c'est un ange qui est avec eux. C'est pas clair, d'accord? Est-ce que c'est Jésus qui est là? On s'entend, Jésus, le Christ incarné avant qu'il y ait un corps, Jésus. Voilà, comment compliquer les affaires. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un ange qui est là? C'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux à ce moment-là et Dieu les fait sortir de cette épreuve-là. Dieu les délivre de cette épreuve-là et il les fait sortir. Et cette vérité-là biblique me revenait en tête pendant que j'étais en train d'étudier le passage cette semaine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le commandement qui nous a été donné à nous comme chrétiens, c'est d'aller de par le monde puis de vivre simplement notre foi. Avec beaucoup de simplicité, vivre tout ce que Jésus a enseigné, aimer mon prochain, saisir les occasions pour annoncer l'Évangile, faire du bien à ceux qui ne m'aiment pas, accepter des injustices, prier pour les gens, que ma lumière à travers mes bonnes œuvres brille parmi les hommes afin qu'ils glorifient mon Père qui est dans les cieux à travers mon style de vie. Et à travers tout ça, je vais parfois sortir victorieux, je vais être délivré d'une situation, justice va intervenir, une parole de sagesse incroyable. D'autres fois, je vais juste subir l'injustice. Mais dans tous les cas, Dieu est avec moi, Christ est avec moi, à travers son Esprit Saint, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pendant que je méditais sur le passage, ce qui m'était rappelé à moi, c'est que les trois amigos, ces trois types-là, et en théologie, on parle souvent de types, c'est-à-dire d'images dans l'Ancien Testament, qui nous parle de quelque chose qui venait, mais plus comme une image. C'est clair pour moi que ces trois types-là étaient un type de Christ aussi, parce que Jésus, plus tard, lorsqu'il va venir, va être conduit au désert par l'Esprit-Saint pour passer des tests. Et lorsqu'il va être au désert, le diable va venir lui chuchoter à l'oreille à travers des visions qu'il va lui donner. « Prosterne-toi devant l'idole que je suis pour moi-même. » « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes. » Et à trois reprises, il va être éprouvé. Il va être éprouvé lorsqu'il va être envoyé, lorsqu'il va se retirer dans le jardin de Gethsémané, qu'il va se préparer à aller à la croix. Il va être éprouvé lorsque ses disciples vont lui proposer de le libérer en sortant l'épée. Il va être éprouvé lorsqu'il va se trouver devant Pilate et que Pilate va lui dire « J'ai droit de vie et de mort sur toi. Qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu vas t'humilier et simplement reconnaître? » Et la réponse de Jésus va sonner beaucoup comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu n'as absolument aucun pouvoir, Pilate. J'aurais simplement à appeler et une légion d'anges viendrait me libérer de toi. Et donc, il m'est rappelé que Christ a été testé lui aussi dans sa foi. Ce qui m'a frappé dans ma première lecture de ce passage-là, c'est que lorsque ces trois amigos-là sont envoyés dans la fournaise ardente, ils n'y vont pas pour expier leurs fautes. Ils sont là comme un test de leur foi. Dieu aurait pu décider de ne pas les délivrer. Ils auraient glorifié Dieu. Dieu a décidé de les délivrer. Ils ont glorifié Dieu. Mais ils n'allaient pas là pour expier une faute quelconque. Puis moi, je lisais le passage, puis je disais au Seigneur Jésus, « Si toi, tu avais été jeté dans les feux de cette fournaise-là, je pense que tu aurais grillé. Parce que tu n'aurais pas été envoyé là pour tester ta foi. Tu aurais été envoyé là pour payer pour mes fautes à moi. » Et donc, ce qui m'est rappelé à travers les tests que Jésus a subis, qu'il a réussi même jusqu'au test de la croix, c'est que lui, sur la croix, contrairement à mes trois amigos, qui ne sont pas seuls dans l'épreuve comme je ne suis jamais seul dans l'épreuve, lui, à l'épreuve de la croix, a dû s'écrier à un certain moment donné. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à un certain moment donné, Jésus, pendu au bois, était seul, vraiment seul. Parce que les Écritures nous disent qu'il a été fait péché. Et donc, à ce moment-là, ce n'était pas seulement un test de son obéissance et de sa foi que Jésus subissait sur la croix. Il allait là prendre le poids de tous mes péchés. Pour moi, comme un chrétien, de lire le livre de Daniel, de lire cette histoire-là, puis de dire, de voir simplement une moralité, une leçon morale qui dit, « OK, je ne veux pas être comme Nebuchadnezzar, je veux être comme les trois amis de Daniel. » Moi, comme chrétien, je ne peux pas simplement lire ça dans le passage. Parce que je vis après la venue de Jésus-Christ qui a passé tous ses tests de sa foi et qui a été éprouvé jusqu'à la mort de la croix, qui a été abandonné sur cette croix-là, contrairement à moi qui ne suis jamais abandonné dans mes épreuves. Jamais. Et donc, lorsque je lis cette histoire-là, je suis capable de dire à chaque fois qu'à travers ces petits tests quotidiens de ma foi, je vais manquer mon coup. Puis je vais décider de me prosterner. Je vais manquer de courage, je vais manquer de foi, je vais manquer de fidélité envers Dieu. Je suis capable de me tourner vers Christ et dire, « Toi, Seigneur Jésus, tu as réussi toutes ces épreuves-là, tous ces tests-là. » Et à la fin, toi, tu étais seul dans la fournaise ardente de ton épreuve sur la croix parce que tu n'étais pas là simplement pour éprouver ta foi, tu étais là pour porter le poids des péchés des hommes, de tous ceux qui croiraient en toi. Et donc, je ne veux pas aller vers les amis de Daniel comme un religieux qui va dire, « Ah, c'est ça que je dois être. Oui, c'est ça que je dois être. C'est ça que je ne serai pas toujours. » Et si ici, on a une histoire incroyable avec leur fidélité, soyez assurés que ces gars-là n'étaient pas parfaits. Et j'apprends donc à me tourner vers Christ. Et vous savez quoi? À travers des moments où je réussis à être fidèle, dans ces petits moments-là où je prends les bonnes décisions d'être fidèle, puis d'assumer ma foi, puis des moments extraordinaires, des fois dans ma vie, je décide d'être fidèle, puis des fois aussi où je vais manquer. Mais à travers tout ça, Dieu peut me surprendre. Et à la fin complètement de cette histoire-là, alors que Dieu est venu délivrer de manière surnaturelle ces trois fidèles-là qui croyaient en lui, il y a un revirement complet. Il y a un revirement complet dans l'histoire. Et Nébu, le type qui voulait être Dieu, au moment où il les voit dans les flammes, va s'écrier, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Au verset 26, il va dire, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs et a eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Ici, au début de cette histoire, il y avait une menace énorme qui pesait sur toute personne qui n'allait pas se prosterner et adorer la statue. Maintenant, une menace énorme pèse de la bouche du roi lui-même sur toute personne qui manquera de respect au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. À travers la simplicité de votre foi, à être fidèle à tous les jours, vous vous exercez pour des moments plus extraordinaires où vous devrez encore afficher votre foi. Ça se peut que la situation semble impossible. Il est très possible aussi que Dieu vous surprenne et qu'il vienne placer sur les lèvres des gens autour de vous de qui ce serait le moins probable des paroles de louange qui vont dire « Ton Dieu, c'est quand même quelque chose. J'admire ta foi. Je suis impressionné par ce que ça t'apporte puis la gentillesse puis la personne que ça fait de toi. Je suis jaloux de ta foi, j'aimerais l'avoir. » Est-ce que Nébu va se convertir? Pour l'instant, à tout le moins, c'est encore le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas son Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. On a intitulé la série « Babylon Home Sweet Home ». Lorsqu'on arrive à la fin de cette histoire-là, je ne pouvais pas m'empêcher de réaliser que ces trois amigos-là, en fin de compte, même s'ils sont en exil et s'ils ne sont pas chez eux, mais lorsque tu marches avec Dieu, parce que Dieu est avec toi, tu es toujours un peu chez toi. Parce que tu es en train de servir le Créateur qui contrôle toutes choses, qui peut intervenir pour délivrer ceux qui le servent, puis pour confondre les orgueilleux qui ne veulent pas l'adorer. On va prier ensemble. Éternel notre Dieu, ce matin, on veut rendre gloire à ton nom. C'est ça la beauté de la foi de ces trois hommes-là, c'est qu'ils se tournaient vers toi. Avec simplicité, ils vivaient au quotidien cette foi qui leur permet, dans des moments extraordinaires, de répondre. Simplement, Dieu est Dieu, je servirai Dieu quoi qu'il en coûte. Peu m'importe l'issue de mon histoire et de cette épreuve, je servirai Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, je veux élever ton nom parce que de tous les hommes qui ont marché sur cette terre, tu es le seul qui est sorti victorieux de tous les tests de ta foi. Tu as été éprouvé sans cesse, constamment, et tu as été victorieux. Tu t'es trouvé pendu au bois. Et dans la fournaise de cette épreuve, toi, tu as accepté d'être seul et abandonné, Seigneur Jésus. Et tu es sorti de cette épreuve, ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Un jour glorieux. Seigneur, lorsque, à tous les jours, j'ai de la difficulté à vivre cette belle simplicité de foi et je me rends compte que je me plante littéralement, je veux regarder à toi, Seigneur. Je ne veux pas aborder les défis de la vie chrétienne au quotidien comme un religieux qui se flagelle chaque fois qu'il manque. Je veux être inspiré par ces hommes et inspiré par toi, Seigneur. J'aimerais ce matin te prier pour toutes les mamans qui doivent vivre comme ça à tous les jours, avec beaucoup de simplicité, une fidélité, Seigneur, dans les épreuves du quotidien, les fardeaux, les charges, les responsabilités, l'ingratitude souvent qu'on a envers elles, Seigneur. Qui doivent apprendre simplement à te servir, toi, quelle que soit l'issue de leur service et de leurs épreuves, Seigneur, sachant que tu es là avec elles. Instruis-nous, Seigneur, et aide-nous à venir t'adorer, te servir comme ces trois amis. Sois béni, Seigneur. Amen.